Ok, donc nous sommes l'âge du monde numéro 4. En fait, on avait déjà, dans les derniers cours, parlé de l'âge du monde. On avait parlé après l'âge des dinosaures, après du premier homme, l'homme de Néandertal. On a prouvé que ce n'est pas notre ancêtre. Libération, en première page, annonce cela en 1997, je me souviens bien. Vous reverrez, c'est dans l'âge du monde numéro 3. Là, un article a paru dans la première fois, c'est en 1998, dans la revue américaine Science, revue américaine de haut de gamme, et traduit ici dans la recherche numéro 307, mars 1998. Le journaliste qui a écrit cet article en anglais s'appelle Anne Gibbons. Et l'adaptation, elle est Dr. Philippe Brenier. Alors, le titre de l'article, « L'horloge de l'évolution ne tourne pas rond ». L'analyse génétique des ossements du tsar Nicolas II a surpris les scientifiques. Alors, le petit encadré, « Pour calibrer les horloges moléculaires, les biologistes de l'évolution ont longtemps considéré que la vitesse de mutation de l'ADN est constante. » L'ADN, nous avons tous en nous des molécules d'ADN, et elles mutent. Elles mutent avec une vitesse constante. Une mutation tous les, on verra, combien de centaines d'années. Or, il s'avère que leur outil de choix, l'ADN des organites cellulaires qui sont les mitochondries, dans les cellules, vous avez des petits ronds comme ça qui s'appellent les mitochondries. Dans chaque cellule vivante, il y en a une. Et dans les mitochondries, tu as aussi des molécules d'ADN. On appelle cela l'ADN mitochondrial. Pourrait muter beaucoup plus vite que qu'on ne le pensait. Ce qui impose de nouvelles normes pour l'analyse médico-légale et soulève des questions troublantes sur la datation de l'évolution. Alors je vous cite quelques parties de l'article comme ça, puis j'expliquerai un peu les... Je ne vais pas tout lire quand c'est un peu long. Depuis que leur séquence a été décryptée en 1981, les petits anneaux que forme l'ADN des mitochondries sont devenus l'outil de choix des études médico-légales et des travaux sur l'évolution. Alors pour dater l'évolution, ou pour savoir maintenant quelle est l'identité d'une personne. Je veux savoir, j'ai des ossements maintenant, un morceau de chair de quelqu'un qui était tué. Je veux savoir maintenant qui il est. On n'a pas de traces. On peut avoir maintenant ces empreintes digitales, mais nous, on n'a pas dans nos fichiers toutes les empreintes digitales de tous les êtres humains qu'il y a sur Terre. Donc, on ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever un peu de son ADN et on va comparer avec sa famille. On peut savoir maintenant si c'est quelqu'un qui est même de la même famille ou pas. Donc, on peut comme ça définir l'identité de personnes non identifiées mortes. À la différence de l'ADN du noyau cellulaire, qu'on appelle l'ADN nucléaire, qui provient à la fois de l'ovule et du spermatozoïde, l'ADN mitochondrial d'un individu provient uniquement de l'ovule, donc uniquement de la mère. On a deux sortes d'ADN, l'ADN du noyau, qui provient des deux, du papa et de la maman, et l'ADN mitochondrial, des mitochondries, qui vient uniquement de la mère. Il permet ainsi de remonter la généalogie maternelle, sans les difficultés liées au mélange des gènes des deux parents. Lorsque j'ai des gènes des deux parents, ça complique, parce que je dois prendre en considération les gènes du père, les gènes du mère. Là, j'ai les gènes de la mère, que de la mère, sur des centaines d'années, donc c'est extrêmement pratique. De plus, les mitochondries ont pour fonction de fournir l'énergie cellulaire, et chaque cellule en contient des centaines. Il est donc beaucoup plus facile de récupérer l'ADN mitochondrial que l'ADN nucléaire. Donc c'est un outil de choix. Il est plus simple parce que il n'y a que des gènes de la mère. Deuxièmement, il est plus facile à extraire parce qu'il y en a beaucoup par cellule, alors que l'ADN nucléaire, il n'y en a que un par cellule. Ok, donc c'est l'outil de choix aujourd'hui pour l'analyse médico-légale et pour la datation au niveau de l'évolution. Je reprends la première page. Alors l'histoire est la suivante. En 1991, les Russes ont exhumé d'une tombe sibérienne 9 squelettes supposés être les restes du dernier tsar, Nicolas II, ainsi que de sa famille et de sa suite fusillée en 1918. Donc, on déterre des corps. On suppose que ce sont les squelettes de la famille du tsar. il manque parmi ces squelettes deux squelettes. Et on analyse maintenant les molécules d'ADN mitochondriales et on voit qu'il y a un problème. Ça ne peut pas être les ossements du tsar parce qu'on trouve maintenant un ADN qui est complètement étranger à la famille du tsar. On connaît les ADN du tsar, on a des squelettes un peu toute la famille, on a pu les prélever. Or, je vous lis ici ce que dit l'article. L'expert de médecine légale pensait que la plupart des personnes sont porteuses d'un seul type d'ADN mitochondrial. Mais il y en avait deux chez le tsar. Un même site donc d'ADN était occupé dans certains cas par un cytosine et dans les autres par un thymine. Il aurait dû avoir une seule sorte d'ADN et voici qu'il a deux sortes. Du cytosine et du thymine. Ce qui n'est pas normal. Or, on ne retrouvait que la thymine chez les lointains cousins du tsar. Et cette discordance a relancé la controverse sur l'authenticité des squelettes. Vu qu'on trouve maintenant la cytosine que chez les cousins très éloignés du tsar, mais dans sa proche famille, il n'y en a pas. Donc on déduit que ce squelette n'est pas celui du tsar. Comment ça fait qu'il y a de la cytosine alors qu'il ne doit pas en avoir? Donc ce squelette n'est pas celui du tsar, Nicolas II. Finalement, la question posée par les ossements de Nicolas II est tombée d'elle-même après l'exhumation, puis l'analyse de l'ADN des restes de son frère, Georges Romanov, grand-duc de Russie. On a exhumé les ossements de son frère, et on va analyser l'ADN de son frère. Comme le tsar, le duc avait hérité de sa mère deux séquences d'ADN différentes. C'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Le tsar et son frère ont un truc bizarre, ils ont deux ADN, et de la cytosine et de la thymine. Cette hétéroplasmie était connue chez les mammifères depuis 10 ans. Elle n'avait pas encore été décrite chez l'homme dans cette partie de non-codante de l'ADN. Donc on découvre qu'aussi chez l'homme, on peut trouver un double ADN. La solution du mystère des restes des Romanov soulevait une question nouvelle qui a d'abord perturbé les experts de médecine légale et aujourd'hui les spécialistes de l'évolution. Quelle est la fréquence d'apparition de cette hétéroplasmie? Dans quelle mesure on peut trouver chez des gens, quelle est la fréquence de trouver chez des gens deux molécules d'ADN? C'est pas normal, il y en a une seule. C'est quoi cette hétéroplasmie? Quelque chose qui est assez bizarre. On se met à rechercher. En fait, plusieurs études récentes laissent penser que l'hétéroplasmie pourrait être fréquente. Ces travaux ont montré qu'elle s'observe chez au moins 10% et probablement 20% des êtres humains. Donc l'hétéroplasmie, elle est courante. Que tu as deux sortes d'ADN dans ton ADN mitochondrial, c'est une chose qui est relativement courante, 10 à 20% de la population. Et comme l'hétéroplasmie est due à des mutations, son incidence étonnamment élevée suggère que l'ADN mute beaucoup plus souvent qu'on ne le pensait jusqu'alors, peut-être 20 fois plus vite. Quand tu as des hétéroplasmies, il y a ici une mutation. Ta mère en avait un, toi tu en as deux. Il y a ici une mutation. Après, avec le temps, tu vas en perdre la première, il te reste que la deuxième. Ici, une mutation. On est en train de vivre une mutation d'ADN. Or, si on trouve des hétéroplasmies chez beaucoup, un grand pourcentage de la population, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de mutations, plus qu'on se croyait, environ 20 fois plus vite. Ça pourrait aussi compliquer la vie des scientifiques qui travaillent sur l'évolution et pour qui le taux de mutation de l'ADN est l'horloge permettant de dater des événements clés, comme le début de la dispersion des ancêtres des hommes autour du monde. Nous pouvons calculer les ancêtres. On trouve Néandertal, on trouve Cro-Magnon, on trouve Piltdown, toutes sortes d'hommes, des ancêtres, Lucie. On prend un peu d'ADN et grâce à l'ADN mitochondrial, on peut calculer maintenant par le nombre de mutations qu'il y a entre nous et eux, il y a combien de temps ils ont vécu. Parce qu'on sait les mutations, elles ont lieu tous les combien de temps. Cet ADN paraissait constituer un système génétique relativement simple. Les chercheurs comparaient la même séquence d'ADN chez différents groupes humains et comptaient les différences. En faisant l'hypothèse d'un taux de mutation constant, ils pouvaient calculer depuis combien de temps ces populations avaient divergé. Je prends deux populations qui ont un ADN différent. On va dire qu'ils ont 10 différences dans leur code d'ADN. Donc je déduis qu'il y a 10 mutations. Donc je remonte, je sais, c'est quand... Combien de temps prend une mutation? Il va dire que ça prend environ 12 000 ans. Donc, je sais que leur ancêtre, il y a eu 10 mutations, il datait d'il y a 10 fois 12 000 ans, donc il y a 120 000 ans. Je peux calculer maintenant quel est l'âge du premier homme, en fait. Ou, s'il y a maintenant deux populations, quel est leur ancêtre commun? je peux, grâce aux mutations d'ADN, calculer l'âge d'un ossement. C'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque maintenant que les mutations vont plus vite, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'hétéroplasmie, donc beaucoup plus de mutations que ce qu'on croyait. Pour les hommes, explique Mark Stone King, spécialiste d'anthropologie moléculaire en Pennsylvania State University, University Park, on aboutit ainsi à un taux d'environ une mutation tous les 300 à 600 générations, soit une tous les 6000 à 12000 ans. Le chiffre qu'on croyait être la mutation normale était une tous les 12000 ans. Je ne vais pas vous trop enquiquiner avec cela, on avance rapidement. Normalement, jusqu'à aujourd'hui, avant cette découverte-là, on savait qu'une mutation avait lieu tous les 6000, 12000 ans. Ainsi, après avoir travaillé sur l'ADN du tsar, personne n'a eu la surprise de découvrir que l'hétéroplasmie était plus fréquente que prévu dans les familles des soldats disparus. Avec ses collègues des États-Unis et d'Angleterre, il a entrepris une étude systématique de l'ADN des familles des soldats ainsi que des familles britanniques ou appartenant à la secte Amish. Donc on commence à faire, on a vu que chez le tsar avait une chose bizarre, il y avait beaucoup d'hétéroplasmie, deux cas, lui et son frère. On commence à analyser maintenant tout ce qu'on connaît. Alors on prend des cas systématiques de familles, de groupements humains, on va regarder combien il y a d'hétéroplasmie, donc combien il y a de mutations. D'après les études sur l'évolution, ils s'attendaient à un taux d'une mutation tous les 600 générations ou tous les 12000 ans. Pour une génération, ça fait 20 ans, donc ça revient à 12000 ans, une mutation. C'est pourquoi ils ont été stupéfaits, entre guillemets, dans l'article, de découvrir 10 changements d'une paire de bases, soit un taux d'une mutation pour 40 générations ou pour 800 ans. On passe de 12000 ans par mutation à 800 ans par mutation. De son côté, l'équipe de Howell, un deuxième, est arrivée indépendamment à une conclusion similaire. Déjà deux études. Les scientifiques ont regroupé leurs données avec celles de quelques autres travaux faisant apparaître une hétéroplasmie dans l'espoir d'aboutir à une estimation plus précise de la vitesse globale de mutation. Selon Stone et King et Gillenstein, on aboutit ainsi à un rythme de mutation tous les 1200 ans. Si on prend tous les travaux de tous les gens qui ont fait travailler là-dessus dans le monde, on arrive à une moyenne d'une mutation tous les 1200 ans, donc nettement plus rapide que celui d'une tous les 6000 à 12000 ans auquel concluent les travaux sur l'évolution. Quelle que soit la conclusion de ce que je viens de dire maintenant, dans l'article, donc, c'est pas des religieux qui parlent, la recherche numéro 307 mars 1998, une revue tout à fait sérieuse, scientifique, qui elle-même reprend un article de Science en Amérique, c'est pas des religieux qu'on a achetés. Ce sont des revues scientifiques de génétique tout à fait sérieuses. Quelle que soit la cause possible d'un rythme de mutation plus rapide, les spécialistes de l'évolution se posent surtout des questions sur ses conséquences. Ils ont par exemple calculé que l'ève mitochondriale, la femme dont l'ADN serait l'ancêtre de celui de tous les humains, vivait en Afrique il y a quelques 100 000 à 200 000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que notre ève mitochondriale, donc notre mère à tous d'après, si on prend maintenant tous les groupements humains et on prend toutes les mutations, on peut remonter à l'origine, celui qui était notre origine, le premier être humain, l'ève mitochondriale, vivait il y a 100 000 à 200 000 ans en Afrique. Avec la nouvelle horloge, elle aurait à peine 6000 ans. Évelan, en bon français, dans le baba. C'est pas des religieux. Ce sont des scientifiques de l'évolution qui calculent l'ADN mitochondrial. Plusieurs groupements, études systématiques. Donc je vous réfère à la recherche numéro 307 mars 1998. En ce qui concerne encore deux petits points. Je voulais vous citer Charles Darwin lui-même. Je l'ai cité cela oralement la dernière fois, mais ici la source écrite lui-même par lui-même. Charles Darwin écrit à son époque, donc c'était vers 1859-1860 qu'a sorti, que Charles Darwin a sorti son théorie sur l'évolution. Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil. Comme je l'ai dit rapidement la dernière fois, on peut concevoir que une fonction primaire, telle que la nutrition ou le rejet des déchets, en poussant beaucoup, d'accord, on pourra encore comprendre difficilement qu'elle arrive avec le temps à se performer, arriver à notre tube digestif, à le système digestif que nous avons aujourd'hui. Mais comment expliquer le don de la vue? Comme une cellule qui ne voit pas, elle fait après un mollusque, un invertébré, après il y a un vertébré, après il y a je ne sais pas quoi, et un beau jour, tac, t'as un œil qui sort. Qu'elles sont toutes des bêtes. Charles Darwin, donc le tenant de cette théorie nous dit, je reconnais au possible, il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil. Rav Shach, il disait, prenez un œil, mettez-le sur la table. Il voit. C'est quoi l'œil? Rien. L'objectif d'un appareil photo, cristallin, morceau de verre, de la gélatine. Il voit. Qui voit? Neshama. Enfin, Sabi, il répétait ça sans cesse. Les élèves, ses élèves ont lu, c'est devenu presque ridicule. Chaque discussion, chaque chiot qui donnait à ses élèves, prenez un œil, mettez-le sur une table. Est-ce qu'il voit? Tout bête. Darwin comprend comment tout à coup un mollusque va développer le don de la vue. Autre parole de Charles Darwin. Bien que les recherches géologiques aient incontestablement révélé l'existence passée d'un grand nombre de chaînons qui ont déjà rapproché les unes des autres bien des formes de vie, elles ne présentent cependant pas entre les espèces actuelles et les espèces passées toutes les gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. Il manque. Tu as le serpent, tu as l'oiseau, où sont les chaînons manquants? Il faudrait toutes les parties manquantes, toutes les gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. Et c'est là, sans contredit, l'objection la plus sérieuse qu'on puisse lui opposer. Comme expliqué la dernière fois, aujourd'hui, il manque plus de chaînons manquants. On a trouvé plus d'espèces. Donc, pour chaque espèce, il faut encore plus de chaînons manquants qui y amènent. Donc, l'objection à Darwin est encore plus puissante. Et je finirai avec une dernière chose. C'est le colacanthe. Le colacanthe, voici la photo de ce fossile. Un fossile d'une sorte de poisson qui est, d'après les évolutionnistes, l'origine des vertébrés. On a d'abord les invertébrés, les pieuvres, les sèches, puis un beau jour, ils commencent à avoir des vertèbres. D'accord? C'est une sorte de poisson qui a l'origine des vertébrés, qui après le poisson il est sorti, il est devenu, je ne sais pas, une tortue, la tortue est devenue un singe, la singe est devenue un bœuf, le bœuf est devenu un être humain. C'est ça un peu en rigolant, d'accord? En tout cas, c'est l'origine des vertébrés. Regardez, reconnaissez-vous votre ancêtre. Le colacanthe qui a disparu il y a 60 millions d'années. L'ancêtre commun de tous les vertébrés est, selon les darwiniens, le colacanthe, ce poisson dont on ne connaissait que des fossiles, s'est éteint il y a 60 millions d'années. Cette extinction prévue par le darwinisme, l'animal qui va subir une mutation favorable, transmet son gène avantageux à toute l'espèce, il a en effet un léger avantage de survie, de fécondité. La théorie indique que ses descendants ont, grâce à cet avantage, totalement remplacé l'ancienne espèce. Espèce éteinte. Ce raisonnement est pourtant faux. En 1938, un colacanthe a été pêché dans les Comores. L'extinction prévue par le darwinisme ne s'est pas produite. Malheureusement, le poisson était empaillé et grande partie de sa carcasse fut jetée. Il fallut attendre de nombreuses années avant qu'un exemplaire vivant ne soit examiné. Ce poisson s'appelle aussi le Latimaria, en hommage à Madame Courtenay Latimer, directrice du musée sud-africain où on apporta le premier colacanthe. Le colacanthe vivant, voici sa photo. Messieurs, il est bien vivant. 60 millions d'années qu'il a été éteint, dit le darwinisme. Dans le baba, numéro 2. Enfin, on allait pouvoir vérifier les hypothèses sur ce poisson. Ses parties dures, celles retrouvées dans les fossiles, semblaient intermédiaires entre les poissons et les premiers vertébrés terrestres, les amphibiens. Tout correspondait, forme du crâne, la mâchoire, os des nageoires. Hein? Les paléontologues regardent les fossiles, tac, il y a un petit détail, ah c'est bon, ça y est, on commence à construire des gratte-ciel là-dessus. Les naturalistes très excités ont pu enfin examiner ces parties molles. Barbara Stahl écrit à propos de l'événement. Le colacanthe moderne ne montre aucune trace d'organes internes préadaptés pour l'usage d'un environnement terrestre. L'excroissance de l'intestin qui sert de poumon chez les animaux terrestres est présente, mais elle est à rudimentaire chez Latimaria. La veine qui draine sa paroi ramène le sang non pas au côté gauche du cœur, comme chez l'homme, comme chez tous les tétrapodes, mais au sinus venosus dans le dos du cœur, comme chez tous les ostéchtriens, de manière directe ou indirecte, la brioute, à l'exception des dipneustes. Bon. Le cœur est typiquement caractéristique des poissons par son absence de division entre côté gauche et côté droit, et l'intestin avec sa valvule spiralée est d'un type commun à tous les poissons excepté les raies les plus avancées. En deux mots, rien de tout ce qu'on avait mégoté et supposé et hypothésé, d'accord, sur les fossiles du Colacanthe, on a un bien vivant. Et de nouveau, on revient à la question, où sont les chaînons manquants? Comment tu passes de invertébré à vertébré? Idem pour le nautile. Le nautile, le voici. Vous connaissez ce genre de fossile très très connu, une sorte de mollusque comme ça qui vit dans sa coquille. Comme le colacanthe, le nautile est un fossile vivant. C'est un mollusque céphalopode. Il appartient donc à la même classe que les pieuvres, calmars et sèches. Pour expliquer leur évolution, on fait appel à un hypothétique ancêtre qui vivait il y a 5770 millions d'années. Il a eu deux descendances. Le nautile, fossile le plus ancien, 500 millions d'années, et le Michelonicéras, aujourd'hui disparu. Ce dernier est l'ancêtre avec beaucoup d'intermédiaires, Bélémite, Bélocéphia, Bélomtutus, Pilosrostra, Conotutus, etc., des sèches, octopus et des calmars actuels. Ces animaux seraient apparus il y a 60 à 25 millions d'années. Et normalement, ce nautile aurait dû disparaître. Il y a là une incohérence. On imagine mal comment d'un côté le nautile continue à être, il reste le même, et de l'autre côté il a donné une évolution. Décide où tu évolues, ou tu restes le même. C'est pas possible que la même, d'une même espèce, il y en a qui restent, il y en a qui changent. De nouveau, une objection, et il y en a beaucoup plus, messieurs, à la théorie de l'évolution. C'est pas évolution, il y a création. On peut admettre qu'il y a une évolution, parce que la Torah elle parle aussi dans les six jours de création d'une évolution. D'abord, il y a eu création des poissons, des oiseaux, après des animaux, après de l'homme. Il y a une évolution aussi. Mais on ne parle pas d'une évolution qui s'est faite comme ça par hasard. Un enzyme rencontre un enzyme, un beau jour, hop, ça crée au cours de milliards d'années l'être humain. On en parlera dans un prochain cours peut-être, des calculs statistiques qui montrent que c'est complètement impossible qu'une molécule d'ADN se forme comme ça. On aimera les chiffres la prochaine fois. Mais en tout cas, s'il n'y a pas évolution par hasard, il y a donc création. Et s'il y a création, il y a créateur. Comme dit professeur Sermonti, c'est un grand professeur à l'université de Pérouse, il dit, le problème avec la théorie de l'évolution, ce n'est pas qu'elle est puissante au niveau scientifique, il n'y a pas de preuves, c'est une théorie, ça n'a pas été prouvé, c'est une théorie. Le problème, c'est qu'elle est fortement ancrée dans nos consciences. Dire que je parle aux états du hasard et dire qu'il y a un créateur, ça m'empiquine. C'est très dur à accepter. Or, messieurs, aujourd'hui, la science avance. Baruch HaShem, à grands pas. Nous sommes pour l'avance de la science. Parce que plus on est ignare, plus on peut dire des hypothèses idiotes. Du genre, on a été créé par hasard. La science avance, elle dit aujourd'hui très clairement. Il est impossible, souligne, impossible de dire qu'il n'y a pas un créateur dans ce monde. Je voulais à cet égard un article écrit par Trinh Xuan Thuan. C'est un astrophysicien français, mais d'origine vietnamienne, comme son nom l'indique. Astrophysicien, professeur d'astronomie à l'Université de Virginie, auteur de Mélodies secrètes, édition Fayard, édition Gallimard. Un astrophysicien, édition Beauchesne Fayard. Dessin de l'univers de Big Bang et après découverte Gallimard. Donc on parle des plus illustres maisons d'édition de livres. C'est pas les romans fleuves. On parle Gallimard, Fayard, d'accord. C'est un homme, pour ceux qui connaissent le domaine de l'astronomie, c'est un des grands noms aujourd'hui en France de l'astrophysique. L'univers est réglé avec une précision extraordinaire. Il suffirait qu'une des constantes qui le régissent soit modifiée dans des proportions infinitésimales pour qu'il soit vidé de conscience et de vie. Il est impossible de recréer le Big Bang en laboratoire. Pour obtenir les températures requises, les accélérateurs de particules s'étendant jusqu'à la prochaine étoile seraient nécessaires. Mais grâce à l'informatique, nous pouvons créer des univers jouets. Il suffit pour cela d'introduire les quatre forces physiques qui contrôlent tous les phénomènes, la force gravitationnelle, qui est en quelque sorte la colle de l'univers, la force électromagnétique, colle de l'atome, les deux forces nucléaires, à savoir la force forte qui tient ensemble les protons et les neutrons, la force faible responsable de la radioactivité. Nous devons en plus introduire une quinzaine de nombres qu'on appelle les constantes physiques, la vitesse de la lumière, la masse du proton, celle de l'électron par exemple. Et là on commence à faire les calculs. On remarque une coïncidence extraordinaire. L'électron a une charge, des choses simples que n'importe quel enfant qui a été en cinquième année sait. L'électron a une charge négative, le proton une charge positive. Comme vous le savez, l'atome est composé de trois éléments. Dans le noyau, tu as des neutrons de charge électrique neutre, des protons de charge électrique positive, et les électrons qui tournent autour, bien loin, de charge négative. Or, bien que le proton soit près de 2000 fois plus massif que l'électron. Le proton et l'électron, un est positif, l'autre est négatif. Le proton, il est dans le noyau, il est 2000 fois plus massif, il a une masse, il est plus gros, il est plus grand que l'électron, près de 2000 fois. Leurs charges sont rigoureusement égales pour une raison que lui ne connaît. Prenons un exemple. Je prends Johan. Johan, quel âge ?
16 ans.
16 ans. Tu es jeune ? Ouais. Bon, Baruch Haba, bienvenue. Johan, excuse-moi, quelle hauteur tu mesures ? Environ ?
1,80.
Combien tu pèses environ ?
Environ.
Ouais, environ.
90
kilos. 1,80, 90 kilos. Ok ? Maintenant, ça, on va l'appeler le vrai Johan. Imaginons maintenant Johan miniature, mini Johan, qui serait 2000 fois plus petit. Donc, s'il fait 1,80 m, 2000 fois plus petit, combien ça fait, messieurs ? Hein ?
0,009.
Faux. 0,9 mm. Hein ? Vous ferez le calcul vous-même, d'accord ? 0,9 mm. Ça veut dire 1 mm, un peu moins. 0,9. Johan, miniature. Combien pèse Johan miniature ? Johan nature pèse 80 kg environ. Donc maintenant, Johan miniature qui est 2000 fois plus petit, normalement il va peser environ 2000 fois moins. Imaginez-vous qu'il pèse exactement le même poids. Bizarre. Bon, ça peut arriver. Mais qu'il soit exactement le même, c'est quand même très très bizarre. On parle de deux éléments complètement différents. Le proton, il est près de 2000 fois plus massif que l'électron. Et pour une raison, un hasard que nul ne connaît, ils ont la charge électrique rigoureusement égale. C'est qu'ils n'ont pas une différence de 0,000001. Ils n'ont aucune différence. Exactement la même charge électrique. Si la charge électrique du proton et de l'électron différait seulement d'un milliardième de milliardième, il exagère ici, ça aurait dû marquer milliardième de milliardième de milliardième jusqu'à l'infini. Tout exploserait, la Terre, le Soleil, les étoiles. Tout est formé d'atomes. Pour que l'atome tienne, il faut qu'il y ait une charge électrique rigoureusement la même dans le proton et dans l'électron. Si c'est différent d'un milliardième de milliardième à l'infini, plus d'atomes, plus de monde, bye bye. Pour une raison que nul ne connaît, par un fortuit hasard, rigoureusement la même charge électrique. De même, continue-t-il. Le réglage de la densité de matière dans l'univers est d'une précision extrême. Le réglage de densité de matière dans l'univers est d'une précision extrême. Je dois peut-être expliquer cela un peu mieux. La théorie actuelle sur la création du monde qui rejoint la Torah, voit pour cela Ramban, et Rabbi Chaim Vital, Ramban sur Bereshit, Rabbi Chaim Vital, peut-être je citerai une fois une de ses lettres ici devant les caméras, disent qu'au début il y avait toute la matière réunie dans un petit rien du tout, et cela explose, Big Bang. Et peu à peu se forment les parties basiques du monde. On a au début ce qu'appelle la soupe de particules élémentaires. On a dans l'univers partout des particules qui ne sont même pas encore des quarks, même pas des particules de particules d'atomes, des particules élémentaires. Et il y a une soupe. Qu'est-ce qui se passe ? La première force des quatre forces de la nature, qui est la force de gravitation, va faire en sorte que les particules s'attirent. Elles vont s'attirer, elles vont faire des quarks, après des particules d'atomes, après des atomes, après des molécules, après des poussières, après des cailloux, après des rochers, après des étoiles, et après des soleils. Donc il y a des grumeaux, formation de grumeaux, au cours de millions d'années, comme ça qui attirent vers eux la matière, et ça crée les étoiles, et ça crée le monde que nous connaissons. Attends, il fallait qu'il y ait un réglage de densité dans ces particules élémentaires. Parce que s'il y avait trop de particules élémentaires pour pas assez de volume dans le monde, c'est que le monde fait 15 milliards d'années, si on avait moins, pour la même le même nombre de particules élémentaires. Donc tu aurais une sorte de soupe de particules élémentaires extrêmement épaisse. Donc qu'est-ce qui serait passé? Rapidement, les particules, elles, se rapprochent. Et tu aurais ce qu'il appelle, il va le dire tout de suite, un big crunch. Le monde, il a eu explosion, puis après, bloup, implosion. Plus rien. Si au contraire, tu ne mets pas assez de particules élémentaires pour trop de volume, tu as une soupe extrêmement liquide, beaucoup trop éthérée. Donc, chaque molécule, chaque particule aurait été beaucoup trop éloignée de l'autre pour s'attirer par la force de gravitation. Donc, on serait resté à l'état de soupe élémentaire pour l'éternité. Comme ça, sans rien du tout. Il fallait qu'il y ait un réglage très précis entre le volume et la densité, la quantité des particules élémentaires pour le volume donné. Un réglage de quelle précision? Regardez bien. Le réglage de la densité de matière dans l'univers a une précision extrême comparable à celle qu'il faudrait à un archer pour planter une flèche dans une cible de 1 cm carré de côté. Tu prends quel effet de tir à l'arc ici dans sa vie? Tu en as fait un peu? Très bien. Tu tires à l'arc maintenant, tu as des flèches, hop! Tu mets une cible de 1 cm carré de côté. Combien tu as de chances de mettre du premier coup dedans? Une chance sur? On va dire sur 1000. Donc tu tires 1000 fois, une fois il y aura dedans. Mais à quelle distance tu as mis la cible? Si tu la mets devant l'arc, c'est pas un problème. 50 mètres. 50 mètres. C'est loin 50 mètres. 50 mètres, tu tires bien. Sur 1000 flèches, il y en a une qui sera dedans. Très bien. Je double la distance. 100 mètres. 2000 flèches. Je double la distance. Je quadruple. La cible, elle est à 200 mètres. 1 cm de côté. Combien de flèches?
4000.
Je mets maintenant la cible. On est ici à Gramotte. Je la mets au centre-ville de Jérusalem. 1 cm, on est ici à 8 km. 1 cm carré de côté. Hein? 10 000! C'est gentil! T'as 10 000 flèches touchées 1 cm carré de côté qui est à Ben Yehuda. Faut être un très bon tireur. Bon, je mets la cible à Paris. Je suis ici à Yerushalayim. Impossible, pas impossible. 1 milliard, je tire. Un beau jour, ça va bien tomber dessus. Des milliards. Je mets maintenant la cible sur la Lune. 1 cm d'eau, c'est sur la Lune, là. Tu tires. Combien de flèches tu vas tirer? Ta vie et la vie de tes ancêtres, de descendants, toute ta vie, des millions de milliards. Messieurs, écoutez bien. D'une précision extrême, comparable à celle qu'il faudrait à un archer, pour planter une flèche dans une cible de 1 cm carré de côté qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années-lumière. Tu vas, pas de nous ici à l'autre bout de l'univers, tu vas d'un bout à l'autre bout. 15 milliards d'années-lumière. Tu as 1 cm carré de côté, tu tires ta flèche et tu mets dedans. Combien de chances tu as? Une chance sur 1 milliard. Donc tu finiras pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ça, messieurs, c'est rien que la précision du réglage de densité entre le volume et le nombre de particules élémentaires. C'est un détail de notre création. Vas-y maintenant pour ce qu'il a dit auparavant. Par hasard, tu as le proton et l'électron qui ont la même charge. Conclusion de notre astro... Je vous dis peut-être la suite de l'article. Il explique ce que je viens de dire ici oralement. Cette densité est plus importante. Des galaxies, au lieu de s'éloigner les unes des autres, se rapprocheraient. Le Big Bang deviendrait un Big Crunch. Tout s'effondrerait au bout d'une année, d'un siècle, ou peut-être d'un million d'années. Ce serait un temps trop court pour que la vie et la conscience, la complexité puissent émerger. En revanche, avec une densité de l'univers moins importante, la gravité serait trop faible pour que les étoiles et les galaxies puissent se former. À partir de ces constatations, deux attitudes sont possibles. On peut estimer qu'un tel réglage est le fruit du hasard et postuler une infinité d'univers parallèles, ce que permet la mécanique quantique. C'est pas une mécanique quantique, c'est une partie, c'est une un avis très très marginal dans la mécanique quantique, c'est Hawking qui va dire que il y a des mondes parallèles. Autant de mondes qu'il y a ici de détails. tu as un monde comme le nôtre, mais où ma lunette est verte. Un autre où elle est rouge. Un autre où ce cahier il est comme ça. Tu as une infinité de mondes parallèles comme le nôtre, qui sont comme le nôtre, mais avec un petit détail qui change. Le nombre qu'il faudra. Et nous, on a un monde parmi tous ces milliards de mondes. Milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de mondes. Bon, théorie. On peut à l'inverse penser qu'il n'y a qu'un seul univers. Ce qui semble plus logique. Mais alors, face à un réglage aussi précis, cela amène à postuler l'existence d'un grand architecte. La science ne peut pas choisir entre ces deux hypothèses. Il s'agit là d'un choix personnel et non plus d'une démonstration scientifique. En deux mots, la science hurle. Il y a un créateur à ce monde-là. Il faut aller se tordre l'esprit et dire, non, tu as des mondes parallèles, autant de détails possibles. Tu avais une chance sur des milliards, de milliards, de milliards, de milliards que ce soit comme ça, tu as des milliards, des milliards, des milliards d'autres mondes qui ont avorté, qui n'ont pas été, ou qui sont comme d'autres, mais un peu différents. Mais s'il n'y a qu'un seul monde, messieurs, ça postule l'existence d'un grand architecte. C'est beaucoup trop précis. C'est pas un religieux, Trinh Tzu Antoine. C'est pas un rabbin. Astrophysicien. Donc, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la science? Il y a un créateur. Alors, on vous remercie de votre attention. Et la suite prochain numéro, dans quelques petites choses à vous raconter.